valeur HI203 et 209, initiation à l'histoire du Moyen-Âge. 12e cassette, deuxième face, présentée par Monsieur Neveu.
Nous étudions donc la deuxième partie du cours sur la vie intellectuelle, avec la deuxième partie, intitulée « L'évolution des structures », et la troisième, « Le mouvement des idées ». Donc, deuxième partie, l'évolution des structures. Et d'abord, sur le plan de l'organisation. Paris a souvent servi d'exemple avec ses quatre facultés. Théologie, qui est la plus prestigieuse, droit canon, qu'on appelle aussi décret. Et le pape Honorius III avait interdit d'enseigner à Paris le droit civil en 1219. En fait, cette interdiction est souvent peu respectée, mais elle a fait aussi le succès d'Orléans. Troisième faculté, c'est médecine. Les facultés sont dirigées par les maîtres ou régents, avec à leur tête un doyen. La quatrième faculté, la faculté des arts, est de loin la plus nombreuse. Elle fonctionne à Paris selon le système des nations. Quatre nations, la française, la normande, la picarde et l'anglaise. Mais la nation française comprend également les étudiants venus du Midi, de l'Italie et de l'Espagne. Quant à la nation anglaise, elle comprend les étudiants venus d'Europe septentrionale et d'Europe centrale. D'ailleurs, elle deviendra en 1436 la nation allemande. Cette faculté est dirigée par le recteur, élu pour 3 mois. C'est le chef de la corporation universitaire. Il est assisté par des procureurs des quatre nations. Nous connaissons beaucoup de recteurs. Citons à titre d'exemple Pierre Cochon, qui fut recteur à 2 reprises, en 1397 et en 1403. Autre recteur célèbre, Nicolas de Clamange, en 1393, Jean Beaupère, Nicolas Midi, Thomas de Courcelles, et tous ces universitaires participeront au procès de Jeanne d'Arc et également au concile de Bâle plus tard. Un autre personnage important dans l'organisation universitaire, c'est le chancelier, qui est le représentant du pouvoir épiscopal. Mais son rôle est devenu purement honorifique au XIVe siècle. Dès 1213, nous l'avons vu, il a pratiquement perdu le droit de conférer la licence au profit des maîtres. En 1301, le chancelier cesse d'être le chef officiel des écoles. Il y a des chanceliers célèbres au XIVe siècle, citons Pierre d'Ailly, entre 1389 et 1395, ensuite il devient évêque, et son successeur, Jean Le Charlier, dit Gerson, c'est le fameux Gerson, mort en 1429. À Oxford, le vrai chef de l'université s'appelle chancelier, non recteur, mais il est élu par ses collègues, car il est secondairement le représentant de l'évêque. Les collèges deviennent, à partir de la deuxième moitié du XIIIe, des éléments fondamentaux de l'université. Ils sont destinés aux étudiants pauvres, ce sont des fondations charitables. Citons à Paris, en 1257, le collège fondé par Robert de Sorbon, qui deviendra la célèbre Sorbonne, et qui peu à peu va se confondre avec la faculté de théologie. En 1280, le collège d'Harcourt. En 1304, surtout le collège de Navarre, fondé par la reine de France, Jeanne de Navarre, en faveur de 70 boursiers, 50 pour les arts et 20 pour la théologie. C'est le plus grand et le plus célèbre des collèges de Paris. De nombreux personnages en sont issus. On peut nommer, par exemple, Nicolas Rem, Pierre d'Ailly, Nicolas de Clamant, Gerson, Gontier et Pierre Colle, etc. Au XIVe siècle, ce collège sera un foyer de l'humanisme naissant. Il y a aussi des collèges plus modestes destinés à accueillir des étudiants venus de certains diocèses. Par exemple, collège de Bayeux, collège de Maître Gervais, collège de Lisieux, etc. Ce système de collège se retrouve bien entendu en Angleterre, où il s'est conservé jusqu'à nos jours. Je ne citerai pas tous les collèges d'Oxford et de Cambridge. Les plus anciens sont par exemple à Oxford le collège Balliol, Queen's, All Souls, et à Cambridge, Peterhouse, Trinity, King's, etc. Les deux universités anglaises se dispersent dans les collèges, devenus la base de l'enseignement. Ailleurs, les collèges n'ont pas toujours joué le rôle qu'on leur a prêté sur le plan de l'enseignement, même à Paris, sauf pour la Sorbonne. Ils sont destinés à aider les étudiants pauvres. Ils ont réussi au départ, dans une certaine mesure. C'est le cas pour Nicolas Rem, pour Gerson, qui appartiennent à des familles modestes. Mais ce n'est pas le cas de tous les boursiers, loin de là. Pierre Dailly, par exemple, était le fils de gros bourgeois de Compiègne. Le petit nombre de ces places prestigieuses va bientôt favoriser une élite. On y entrera souvent par protection. On assiste donc au XIVe siècle à un mouvement d'aristocratisation des universités. Les universitaires se considèrent d'ailleurs de moins en moins comme des travailleurs intellectuels, mais ont tendance à assimiler science et chevalerie. L'évolution touche aussi le contenu des enseignements, même si les méthodes restent les mêmes qu'au XIIIe siècle. Deuxième point donc, cette deuxième partie, l'enseignement. Je rappelle les méthodes traditionnelles de cette époque, la lectio et la disputatio en latin, français leçon et dispute. On dispute d'une question, d'une question qui est débattue. Également, les disputes de quodlibet qui ont lieu une ou deux fois par an, pour chaque maître, en présence de toute l'université. Et dans ce cas, n'importe quel thème pouvait être abordé. Ça ressemblait quelque peu à ce qu'on appelle aujourd'hui une conférence de presse. Rappelons aussi quels sont les grades de l'université. D'abord, le baccalauréat, c'est le premier grade. On passe alors du stade d'auditeur passif à celui d'assistant. Deuxième grade, c'est la licence, licentia docendi, permission d'enseigner, c'est un examen oral. Troisième grade, c'est le doctorat, qu'on appelle aussi maîtrise. C'est en fait une simple formalité scolaire. Mais le doctorat correspond à une cérémonie solennelle où l'on reçoit les insignes. La barrette, le bonnet de docteur, l'anneau d'or, un livre symbolique. L'impétrant doit aussi offrir un somptueux banquet et cela coûte fort cher. Beaucoup d'étudiants se contentaient donc de la licence. Il ne se destinait pas à enseigner. Les docteurs sont souvent amenés à solliciter l'aide d'un puissant protecteur. Par exemple, le duc de Bourgogne a eu beaucoup de protégés. Quelquefois, c'est une ville qui offre cette protection. Par exemple, la ville d'Évreux pour Jean Bréal au XVe siècle. La cherté du doctorat va être un nouvel élément de cette aristocratisation de l'université dont j'ai parlé tout à l'heure. Le cursus universitaire normal comprend d'abord l'étude des arts, ça correspond à notre enseignement secondaire, il s'agit des 7 arts libéraux. On reçoit cet enseignement de 14 à 20 ans, c'est un enseignement qui dure 6 ans. Ensuite, on peut passer par le droit ou la médecine, c'est un enseignement qui dure également 6 ans. Et enfin, on termine par la théologie, qui est l'enseignement suprême et qui dure 8 ans au minimum. On ne peut être docteur en théologie qu'à l'âge de 35 ans. Si le cadre n'a pas changé fondamentalement entre le XIIIe et le XIVe siècle, en revanche, le contenu des études a beaucoup évolué. C'est ce que nous allons étudier dans la troisième partie, le mouvement des idées. Et d'abord, étudiant, foi et raison, deux termes essentiels dans les débats de cette époque. L'enseignement reste fondé sur la méthode scolastique, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les autorités, les autorités chrétiennes, bien entendu, la Sainte Écriture, les pères de l'Église, et d'autre part, la pensée antique, enrichie par le passage dans le monde arabe. D'autre part, on étudie le langage, la grammaire, et le raisonnement, c'est la dialectique associée à la logique. Et la méthode reine, c'est le syllogisme. Le problème fondamental, c'est donc le rapport entre raison et foi. C'est un vieux problème, déjà posé au XIIe siècle du temps d'Abélard. Mais la question a été renouvelée au XIIIe par l'apparition de la philosophie d'Aristote, connue par ses traductions latines. Cette nouvelle philosophie a d'ailleurs été interdite par la papauté à plusieurs reprises au XIIIe siècle. Mais ces interdictions se révélèrent inefficaces et elles sont levées au milieu du XIIIe. Au contraire, Thomas d'Aquin, 1225-1274, fait une synthèse, tente une synthèse. Il tente de concilier l'augustinisme, c'est-à-dire la philosophie chrétienne dérivant du platonisme, et l'aristotélisme. Autrement dit, il essaie de concilier pensée chrétienne et philosophie grecque. Autrement dit encore, il essaie de concilier foi et raison. La position opposée, c'est celle qui est défendue par l'averroïsme, autrement dit les partisans du philosophe arabe Averroès. Aristote est vu par certains à travers les commentaires d'Averroès. C'est le cas notamment pour Sigère de Brabant, qui est le principal porte-parole de ce courant dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Il renonce à concilier foi et raison, qui sont deux domaines distincts. Ces thèses sont combattues par Albert le Grand et par Thomas d'Aquin, tous les deux étant des dominicains. Néanmoins, elles exerceront une influence profonde sur les principaux penseurs du XIVe siècle, Marcille de Padoue et Guillaume d'Ockham. Abordons justement, en deuxième point de cette troisième partie, le nominalisme. La philosophie d'Aristote, christianisée par saint Thomas, s'est imposée au XIVe siècle. Saint Thomas est d'ailleurs canonisé en 1323 par Jean XXII. Mais déjà, apparaît une critique radicale de l'idée même d'une synthèse possible. Après Don Scott, franciscain anglais, Guillaume d'Ockham, qui est originaire du village d'Ockham, dans le Surrey, qui est né vers 1300 et mort vers 1350, qui est aussi franciscain, fait des études de théologie à Oxford et enseigne la théologie à Oxford et à Paris. Il commente Les Sentences de Pierre Lombard, qui sont un des livres essentiels dans l'enseignement à cette époque, et il soutient qu'il est impossible, par la raison, d'atteindre à la moindre certitude théologique. C'est donc le divorce entre la raison, domaine de la philosophie, et la foi. C'est un nominalisme radical. Un mot n'est qu'un mot. Une idée n'a qu'un nom. Il n'est de réel que le particulier. Cette philosophie nominaliste s'oppose à ce qu'on appelle le réalisme de Thomas d'Aquin. Pour lui, il y a plus de réalité dans l'idée générale que dans ses avatars particuliers. Ces idées de Guillaume d'Ockham sont condamnées à Paris en 1340. Néanmoins, elles s'imposèrent en une génération. L'aspect le plus important de l'ockhamisme, c'est sa fonction critique. Cependant, cette philosophie n'aura pas d'effet très heureux sur le fonctionnement des universités. Cette philosophie stimulera surtout la faculté des arts et la recherche scientifique, entre guillemets. Par exemple, Don Scott, Ockham lui-même, écriront des traités scientifiques. Jean Buridan, Nicolas Rhème et Pierre Dailly écriront des traités de physique. Cependant, cela n'ira pas très loin. Il y a un blocage du fait de l'absence de langage mathématique et de l'absence d'utilisation de techniques d'expérimentation. Toujours est-il que ces nouveaux courants philosophiques, qui peuvent paraître purement spéculatifs, auront des conséquences sur la société politique des XIVe et XVe siècles. Les maîtres s'engageront dans les querelles politico-religieuses de leur temps, et souvent, ils se mettront au service des princes. Et on aboutira finalement à l'apparition de théories proprement politiques. Voyons justement quelles sont ces nouvelles théories politiques. Ces idées politiques, celles de Guillaume d'Ockham notamment, se sont cristallisées dans le contexte du conflit entre la papauté et l'Empire. Conflit qui est particulièrement vif au XIVe siècle sous Louis IV de Bavière, qui est élu empereur en 1314 en concurrence avec Frédéric le Beau de Habsbourg. En 1322, c'est la bataille de Mulhdorf qui voit la victoire de Louis de Bavière. Or, Frédéric de Habsbourg était soutenu par le pape de l'époque, Jean XXII, qui excommunia Louis de Bavière. En représailles, en 1328, Louis de Bavière suscita à Rome un antipape du nom de Nicolas V. Ce conflit ne fut pas résolu du vivant de Jean XXII, mais finalement, Louis de Bavière échoua, puisqu'en 1346, le pape Clément VI reconnut un nouvel empereur, Charles IV de Luxembourg. Pourtant, Louis de Bavière avait reçu le soutien idéologique des grands théologiens de son temps, Marcel de Padoue et Guillaume d'Ockham lui-même. Les idées de Guillaume d'Ockham sont exprimées dans le Dialogus et dans le Brevilocium de Principatu Tyrannico, datant de 1341. Je résume ces idées qui vont à l'encontre de la thèse théocratique défendue par le pape, c'est-à-dire supériorité du pape sur l'empereur, supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. A l'inverse, Guillaume d'Ockham proclame « Mon royaume n'est pas de ce monde ». C'est une parole de Christ dans l'Évangile. Le pape n'a donc pas de pouvoir temporel. Il ne doit pas intervenir dans la vie politique des États. Deuxièmement, l'Église a été créée par le Fils de Dieu. Le pape n'y a donc légitimement aucun pouvoir. Troisièmement, l'Empire est antérieur à l'Église. Mais il a été également créé par Dieu. Par conséquent, le pape et les clercs sont soumis au pouvoir laïc. Les positions de Marcel de Padoue vont tout à fait dans le même sens. Marcel de Padoue est un Italien, né vers 1275 et mort vers 1343. Il fut recteur de l'université de Paris en 1313. Vous voyez que cette université est vraiment universelle à cette époque. Il rédige son œuvre aussi dans le contexte de la lutte entre l'empereur Louis de Bavière et le pape Jean XXII. Son œuvre essentielle, c'est le Defensor Pacis, datant de 1324, et écrit avec la collaboration de Jean de Jandun, qui est un Averroïste. Je résume ces thèses très rapidement. L'État prend le pas sur l'Église. La mission de l'État et de garantir à ses membres le bien-être matériel et le salut spirituel. Les prêtres sont donc les ministres de l'État. De plus, la source de la souveraineté, c'est le peuple. Et le concile est l'organe chargé de représenter le peuple. Or, le concile est convoqué par l'autorité laïque, par l'empereur. De telles idées, antithéocratiques également, n'étaient pas sans rapport avec celles qui étaient défendues par les légistes de Philippe le Bel. Pensez à Guillaume de Nogaret et au conflit entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII. elles auront des répercussions importantes sur les rapports entre Église et État au XIVe et XVe siècle, et donc pour l'équilibre entre les deux pouvoirs essentiels au Moyen Âge. C'est ce qu'on appelle l'avéroïsme politique, autrement dit la séparation du droit et de la morale. L'État est autonome et l'ordre établi voulu par Dieu. Autrement dit, ceux qui résistent aux autorités encourent la damnation éternelle. Les idées de Marcille de Padoue furent condamnées par Jean XXII dès 1327 et celles de Guillaume d'Occam également à Paris en 1340. Ces idées nouvelles en arrivaient à saper les fondements même de la doctrine catholique. Elles vont déboucher sur l'hérésie avec Wycliffe. Nous abordons donc un dernier point, politique et hérésie, avec Wycliffe. John Wycliffe, 1330-1384. C'est d'abord un maître de l'université d'Oxford. Il appartient à une famille modeste, et il dut postuler à des bénéfices pour survivre. Sa carrière est d'ailleurs très lente. En 1360, à 30 ans, il est seulement maître essor. Et en 1372, à 42 ans, docteur en théologie. Il aimait la critique. Il aimait nager à contre-courant. Alors que le nominalisme est roi, il défend le réalisme de façon intransigeante. Cependant, il occupe des fonctions officielles, notamment celle de Regis Peculiaris Clericus après son doctorat, c'est-à-dire qu'il est un expert que le roi d'Angleterre prend à son service et pour l'aider dans ses rapports difficiles avec les papes d'Avignon. En 1374, il est à Bruges et participe à une rencontre avec les envoyés du pape. Cette expérience a sûrement joué un rôle important dans l'évolution de sa pensée. Il est lié à Jean de Gand, duc de Lancastre, et à la famille des Lancastre en général. Ses œuvres principales sont des Dominio Divino, des Civili Dominio, des Officio Regis, des Eucharistia. Sa doctrine peut être résumée de la façon suivante. L'Église visible n'a que des fonctions mineures dans l'économie du salut. Il distingue l'Église hiérarchique, qui a des défauts évidents, et l'Église invisible, Congregatio Praedestinorum, rassemblement des prédestinés. L'Église visible est entraînée vers le mal par les nombreux praescti, ceux qui sont prédestinés à l'enfer. L'Église visible s'est emparée de pouvoirs auxquels elle n'avait aucun droit. Elle est donc devenue le corps de l'Antéchrist. Le pape n'a d'autorité suprême que s'il est suprêmement vertueux. C'est donc la liaison entre le pouvoir dans l'Église et la qualité morale. On peut dire par ailleurs aussi que les clercs cachent l'Évangile en utilisant le latin et les gloses. En revanche, les rois sont chargés de faire respecter la loi de l'Évangile. Bien entendu, avec de telles idées, Wycliffe inquiéta rapidement les autorités ecclésiastiques. En 1377, il est convoqué par les évêques à Saint-Paul. Il est alors soutenu par Jean de Gand. Grâce à Jean de Gand, il ne sera pas condamné. Néanmoins, en 1378, on lui interdit d'enseigner. La même année a lieu le grand schisme, qui semble lui donner raison. Il soutient d'abord Urbain VI, puis le considère comme un antéchrist, au même titre que Clément VII. Wycliffe aurait pu réussir, de son vivant, à déboucher sur un grand mouvement de transformation de l'Église. Beaucoup de maîtres et d'étudiants d'Oxford le suivaient. Les hommes d'État étaient très intéressés par ses théories. Souvent, ils étaient hostiles à la curie. La population, et notamment la population anglaise, appréciait peu les clercs. Cependant, en 1381, c'est le mouvement des travailleurs, mouvement quasiment révolutionnaire en Angleterre, qui lui fut imputé à tort. Le prêtre John Ball, meneur de ce mouvement, se disait son disciple. Cependant, Wycliffe refusa d'approuver les rebelles. Il se produit donc un retournement dans les milieux dirigeants. L'archevêque de Canterbury, primat d'Angleterre, affirma que les doctrines de Wycliffe risquaient d'entraîner l'anarchie. On le crut, bien évidemment. La répression s'abattit donc sur Oxford et sur Wycliffe en particulier. En 1382, Wycliffe quitte l'université. La même année, le primat convoque au Blackfriars un synode qui résume la doctrine de Wycliffe en 24 propositions et la condamne. Curieusement, Wycliffe lui-même ne fut pas poursuivi, alors que ses collègues durent souscrire au verdict. Wycliffe, sans doute encore protégé par Jean de Gand, va se retirer dans sa cure de Lutterworth. Il aura encore une activité d'écrivain, toujours critique à l'égard de l'Église romaine, et mourra en 1384. Wycliffe a une postérité en Angleterre, celle des Poor Priests. Vers 1380, quelques prêtres qui entreprennent des tournées de prédication et qui sont réprimés. D'autres disciples de Wycliffe, appelés Lollards en Flandre et en Angleterre. Ils réclament une simplification du culte, une sécularisation des biens du clergé, une révolution sociale. Il y aura quelques soulèvements dans cette lignée en Angleterre qui aboutiront à des échecs. Finalement, la postérité spirituelle de Wycliffe est à rechercher en Bohême avec Jean Hus et le mouvement hussite au XVe siècle et ensuite dans la réforme protestante au XVIe. Wycliffe, qu'on appelle le docteur Evangelicus, peut être considéré comme le précurseur du protestantisme et même comme son premier théoricien. Un certain nombre d'universitaires en arrivent donc à une critique radicale de l'Église qui, si elle était mise en pratique, aboutirait à un bouleversement complet de la société du temps. En revanche, ils privilégient le rôle de l'État, qui doit, selon eux, s'attribuer la première place face aux autorités spirituelles déconsidérées. En conclusion, au sujet de la vie intellectuelle et surtout de la vie universitaire, dans la société politique, au XIVe et XVe, on peut dire que le milieu universitaire reste un milieu d'église, en marge du pouvoir politique, et que pourtant les interrelations sont extrêmement nombreuses. Sur le plan théorique, avec la justification de la suprématie du pouvoir laïque, sur le plan du gouvernement, avec le conseil des universitaires et des princes éclairés, entre guillemets, aussi avec de nombreux universitaires dans les hautes sphères du pouvoir, sur le plan du recrutement, enfin, avec un personnel d'officiers passé par les universités, notamment par le droit. Les universités sont donc, à cette époque, de moins en moins universelles, de moins en moins d'église, de moins en moins purement intellectuelles, mais de plus en plus inféodées au pouvoir politique, de plus en plus tournées vers la formation professionnelle. Ce sont les nouvelles fonctions et même de nouvelles universités à cette époque.